Ce thème qui, malheureusement, est parfois mal compris de beaucoup de chrétiens parce que chacun essaye à sa manière d'interpréter ce que cela veut dire. C'est la question de la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, les chrétiens ont des attitudes différentes à ce propos. Certains voudraient bien la connaître hein, afin de l'appliquer, de la faire. Donc, ils la cherchent de tout leur cœur. Ils cherchent à connaître la volonté de Dieu parce qu'ils veulent simplement être agréables à Dieu. Et on s'efforce de connaître ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut en méditant sa parole, en nous tenant à genoux devant lui. Il y a d'autres encore qui, malheureusement, ne prennent pas Dieu au sérieux et ne cherchent donc pas à savoir ce qu'il attend d'eux. Et parce qu'ils ont peur de faire ce que Dieu leur demande de faire. Ils ont peur que Dieu leur demande de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, à cause de cela, ils ne cherchent pas à connaître ce que Dieu attend d'eux. Mais il y a aussi un autre groupe de personnes. C'est ceux qui connaissent la volonté de Dieu, ceux qui savent ce que Dieu attend d'eux, mais choisissent délibérément de faire ce qu'ils veulent. Il y a là ceux qui cherchent. Ceux qui cherchent à connaître la volonté de Dieu, qui veulent l'appliquer, qui veulent la vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être agréables à Dieu, ils veulent plaire à Dieu. Parce que quand on fait la volonté de Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qui réjouit son cœur. Il y a ceux qui ne font pas cas de Dieu, donc ne cherchent pas à connaître ce qu'il attend d'eux, donc vivent comme bon leur semble. Mais il y a ce troisième groupe de personnes qui savent ce que Dieu attend d'eux, mais décident de vivre leur vie comme bon leur semble. Nous remarquons malheureusement qu'il y a une grande confusion dans l'Église, dans nos églises, en ce qui concerne la volonté de Dieu. Il y a une confusion en ce qui concerne la volonté de Dieu. Certains, voulant la connaître, vous savez, lisent la Bible au hasard. Ils se disent, je suis tombé sur ce verset. On prend la parole de Dieu comme un jeu de hasard. Ah oui, je suis tombé sur quelque chose, donc c'est ce que Dieu veut. Pourtant, ce que Dieu veut pour nous, c'est quelque chose de précis. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Il est un Dieu d'ordre. Et ce que nous trouvons, ce que Dieu veut dans sa parole, quand nous disposons nos cœurs, quand nous mettons du temps à part pour laisser le Seigneur parler à nos cœurs, quand nous fléchissons le genou en disant « Seigneur, je mets de côté mes pensées, je mets de côté ma propre volonté et ce que je désire, Seigneur, c'est que tu imprimes à mon cœur ce que tu veux. » Le Seigneur Jésus lui dira lui-même, il n'est pas venu pour faire sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Il avait le plein pouvoir, Jésus, alors qu'il était sur la terre, de faire ce qu'il voulait, parce qu'il était Dieu. Mais il a accepté volontairement de se soumettre à son Père. Vous savez d'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il va s'adresser aux chrétiens de Rome, il dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque l'apôtre donne ces paroles, il montre là ce que Dieu a en réserve pour ses enfants est bon, agréable et parfait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime. Et quand on aime, on veut donner ce qu'il y a de meilleur. Et Dieu a en réserve ce qu'il y a de meilleur pour ceux qui s'attendent à lui. Dieu ne veut pas nous donner des miettes, il veut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Il l'a fait déjà dans les lieux célestes, Paul le dira aux Éphésiens, mais il veut le faire aussi sur la terre, parce que oui, le royaume de Dieu ça commence déjà sur la terre, et nous pouvons être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et il montre quand même, l'apôtre Paul, la condition pour en jouir. C'est laisser l'esprit de Dieu renouveler notre intelligence et que par notre vie, nous puissions l'adorer, nous puissions l'honorer et nous puissions lui obéir. Alors, la question qui se pose, qu'attend Dieu des hommes en ce qui concerne sa volonté? Qu'est-ce que Dieu attend des hommes en général? Parce que voilà, en parlant également de la volonté de Dieu, il y a cette volonté générale pour tous les hommes. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Mais il y a une volonté aussi qui est spécifique à tout un chacun. Ce que Dieu veut pour moi n'est pas forcément ce qu'il veut pour vous, et inversement. Et pourtant, Dieu veut une chose, c'est le salut des hommes. Alors, qu'est-ce que Dieu attend ? En ce qui concerne sa volonté, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et j'aimerais lire ce texte avec vous dans le premier livre des Chroniques. Le premier livre des Chroniques, au chapitre 17. Nous lisons ceci. Lorsque David fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan, « Vois, j'habite dans une maison en cèdre. Tandis que l'arche de l'Alliance de l'Éternel se trouve sous une tente, Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Fais tout ce que tu veux dans le cœur, Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, « Ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je une seule fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre ?» Annonce maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. » J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit pas agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes femmes, de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Voilà là, quand même, une histoire. David, après avoir été choisi par Dieu pour conduire Israël, pour succéder à Saül, celui que Dieu a rejeté parce qu'il a désobéi, Et celui que Dieu a pris derrière le troupeau pour conduire le peuple. David va prendre conscience à un moment donné qu'il a été affermi par Dieu. Il a été béni de Dieu. Il a une maison, il a un palais. Mais il se rend compte que l'arche de Dieu, le lieu, cet objet que Dieu avait permis que les enfants d'Israël, par Moïse, construisent pour aller à la rencontre de Dieu, David réalise que cet objet-là, il le transporte de lieu en lieu, il n'a pas un lieu fixe. Et il va dire à Nathan, écoute, moi j'ai un palais et j'aimerais que Dieu ait une maison. C'est une bonne idée. Hein? Elle était bonne, son idée. Son projet était bon. Qu'est-ce que Dieu attend des hommes que de mettre leur talent, leur temps, leur trésor à sa disposition? Qu'est-ce que Dieu attend de nous que de l'honorer par tout ce qu'il nous a donné? Il y a là quelque chose qui devrait réjouir nos cœurs parce que nous avons là un exemple merveilleux. Parfois, on peut se dire, oui, j'ai un projet pour Dieu. J'ai une idée. Je veux servir Dieu. Et c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des projets. Dieu nous a donné de l'intelligence. Mais dans toutes ces choses, c'est le plan de Dieu qui devrait s'accomplir. David éprouve le désir de construire une maison à Dieu. Mais voyez-vous, parfois nous essayons, tout comme David, on essaye de faire entrer Dieu dans nos projets. On a notre projet à nous et on veut dire, Dieu viens, c'est à toi maintenant d'approuver mon projet à moi. Ce n'est pas à Dieu d'approuver notre projet, mais on veut que Dieu, au lieu que nous approuvions le projet de Dieu, nous voulons que Dieu approuve notre projet à nous. Mais vous savez, agir de la sorte, c'est dangereux. Et cela engendre des souffrances. Ça engendre des souffrances parce que, on est irrité, on n'obtient pas ce que l'on veut, on n'arrive pas à faire ce que l'on veut. Et parce qu'on n'arrive pas à faire ce que l'on veut, on est irrité, on est attristé, on se dit, mais Seigneur, ce projet, je veux le faire pour toi, c'est une idée pour toi, je veux te servir. Et pourtant, quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'il n'y a rien de mal dans le projet de David. En soi, il n'y a rien de mal. Construire une maison pour Dieu, quelle bonne idée! Quelle bonne idée! De se dire, Seigneur, je veux t'honorer. Il le fait par crainte et par amour pour son Dieu. Il veut quelque chose de bien pour Dieu. Seulement, vous savez, bien que l'idée soit bonne, bien que le projet soit bon, aux yeux de Dieu, il n'est pas la personne adéquate pour réaliser ce projet. Au temps précis. Parfois, nous pouvons avoir dans notre cœur des choses pour Dieu, des choses légitimes, hein? Légitimes, des choses honorables. Mais qu'en est-il de la réponse de Dieu en ce qui concerne notre idée, notre projet? Au verset 3, alors que David avait résolu dans son cœur. Parfois, c'est bien d'avoir de bonnes résolutions. Mais nos résolutions, malheureusement, ne doivent pas aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Dieu lisait dans le cœur de David. Frères et sœurs, sachons-le, en ce moment même précis, en cet instant même, Dieu lit dans notre cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur, Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu connaît déjà les mobiles qui t'animent, toi qui es assis, qui es assise là. Il connaît ce qui anime ton cœur. Alors que David s'était adressé à Nathan, Dieu va adresser une parole à Nathan concernant David. Ce n'est pas à toi de me construire une maison. Je vous prie de croire que humainement, ce n'était pas la réponse que David aimerait entendre. N'est-ce pas? Tout comme nous, parfois, on a un projet pour Dieu. On se dit, on veut servir Dieu. Et on le fait de bon cœur. On le fait de bon cœur. Mais Dieu dira, ce n'est pas à toi. Voilà une réponse qui ne correspond pas du tout à ce que David avait prévu. Une réponse négative à laquelle il ne s'attendait pas. Sommes-nous conscients que parfois une réponse négative est positive aux yeux de Dieu? Ah, il n'y a pas de amen. Hein? Ce n'est pas grave, mais c'est la réalité. Une réponse négative que Dieu nous donne est une réponse positive de sa part. Qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Dieu connaît nos cœurs. Que faisons-nous lorsque la volonté de Dieu ne correspond pas à ce que nous avions prévu? Que faisons-nous quand Dieu nous adresse une parole qui est contraire à ce que nous avions prévu au préalable? Seigneur, pourtant c'est une bonne initiative. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est bien à nos yeux qu'elle doit être approuvée de Dieu. La preuve. David choisit de Dieu pour conduire Israël. David choisit par Dieu pour être roi d'Israël. On pourrait se dire, s'il y a quelqu'un qui est approuvé dans ses projets, c'est David. Parce qu'il est choisi de Dieu. Mais là, dans ce contexte précis, Dieu montre que ce n'est pas parce qu'on a des projets à son égard qu'il doit forcément les approuver. N'est-il pas celui qui sait ce qui est bien pour nous? N'est-il pas celui qui sait ce qui est bien pour lui? Mais j'aimerais, dans le titre de ce message, c'est accepter la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu. Et je vous prie de croire que humainement, il nous est difficile parfois d'accepter ce que Dieu veut pour nous. Parce que plusieurs fois, la réponse de Dieu est contraire à ce que nous lui avons demandé. Voilà pourquoi parfois on est frustré, parfois on est découragé, parce qu'on se dit, pourtant j'ai prié pour ça, pourtant j'ai prié, pourtant je me suis placé devant Dieu. Mais la réponse n'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais je bénis Dieu parce que malgré la réponse négative que David a reçue, nous pouvons examiner son attitude face à cette réponse négative. D'où la question que je repose encore. Que faisons-nous quand nous recevons une réponse négative de la part de Dieu. Que faisons-nous? Allons-nous nous révolter? Ah, parfois on se révolte. Parfois on lève le poing contre Dieu. On lève le poing contre Dieu. Vous savez, vous pouvez lever le poing contre un homme. Vous pouvez lever le poing contre le pasteur, le mettre KO. Mais à quoi ça sert de lever le poing contre Dieu? À quoi ça sert de se révolter contre Dieu? N'est-il pas Dieu? Parfois, on se révolte et on s'entête malheureusement à atteindre notre objectif. Bien que la réponse de Dieu soit négative, d'où, souvenez-vous de ce troisième groupe de personnes, ceux qui savent ce que Dieu attend d'eux, mais qui malheureusement veulent vivre leur vie comme bon leur semble. Allons-nous nous révolter? Allons-nous nous entêter à atteindre notre objectif? Ou allons-nous simplement nous soumettre à lui et à nous attendre à lui? Vous savez, accepter la volonté de Dieu, même si elle ne correspond pas à nos attentes, c'est une preuve de confiance. C'est une marque de respect à l'égard de notre Dieu. Même si je reçois une réponse négative de Dieu, au lieu de me révolter, au lieu de m'entêter à aller jusqu'au bout de mon projet, je dois me soumettre. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour ma vie. Vous savez, il y a un qui a essayé d'aller au-delà de ce que Dieu lui avait dit. Souvenons-nous du prédécesseur de David. Dieu avait rejeté Saül. Il l'avait rejeté. Mais malheureusement, Saül a essayé malgré tout de se cramponner à sa royauté, au point même de vouloir lever le poing contre celui que Dieu a mis à sa place. Il a essayé Saül, croyant que s'il faisait mourir David, son projet à lui allait s'accomplir, il allait aboutir à son projet-là. Il ne prenait pas en compte ce que Dieu lui avait dit. Lorsque Samuel priait toujours pour Saül, Dieu même va dire à Saül, à Samuel, arrête, je l'ai rejeté. Pourquoi tu continues à prier pour lui alors que je l'ai rejeté? C'est dur quand même comme parole. Même le prophète qui continuait à intercéder pour celui que Dieu avait rejeté, il a fallu que Dieu mette un terme en disant « arrête ». David, que va-t-il faire? Saurait été vous, que feriez-vous? Peut-être que quelqu'un pourrait se remémorer une situation où Dieu lui a donné une réponse négative. Quelle était votre réaction? Moi, je me souviens de ma réaction. Et vous? Au verset 16, il est dit ceci. Alors que Nathan rapporte ses paroles à David, le roi alla se présenter devant l'Éternel. C'est ce qu'on aurait fait aussi. Hein. Il alla se présenter devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est trop peu à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu me traites comme si j'étais un homme important. Éternel Dieu, que pourrais-tu dire de plus, David, sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, Éternel. C'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les lui a révélées. éternel, personne n'est semblable à toi. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu, existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple Israël? Ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as chassé d'Égypte. Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille subsiste dans l'éternité et agit comme tu l'as dit. Qu'elle subsiste, que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant « L'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. » En effet, c'est toi, mon Dieu, qui a révélé à ton serviteur que tu lui construirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, c'est toi qui es Dieu et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité. Amen. L'attitude que David va avoir serait peut-être différente de la nôtre si nous nous tenions devant Dieu alors que nous avons reçu une réponse négative de sa part. Ce que nous lisons ici nous amène à comprendre réellement un homme avec un cœur disposé devant son Dieu. Au lieu de se révolter, au lieu de se taper la poitrine en disant « Seigneur, écoute, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as vu, Seigneur, voilà, tous ces prodiges que j'ai fait. » Non, David va réaliser tout de même. Il ne voit que la personne de son Dieu. Il ne regarde même plus à son projet, à lui. Quelle humilité! Pourtant, c'est ce qui bouillonnait dans son cœur. C'est ce qui le tenait à cœur. Il avait un projet pour Dieu. Après avoir reçu cette réponse de Dieu, sa réponse, « Qui suis-je, Éternel, devant toi ? » Qui suis-je ? Toi seul es Dieu. Tu as fait toutes ces choses-là pour ton peuple. Vous savez, la chose la plus difficile pour nous aujourd'hui, ce n'est pas tant de connaître la volonté de Dieu. La chose la plus difficile pour nous, ce n'est pas tant de savoir ce que Dieu attend de nous. La chose la plus difficile pour vous, pour nous, aujourd'hui, c'est d'accepter ce que Dieu veut pour nous. Elle est là, la difficulté. On sait la plupart du temps ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Puisque quand nous lisons la parole, j'espère que nous la lisons, quand nous lisons la parole de Dieu, nous savons ce que Dieu attend de nous. Nous connaissons les promesses de Dieu pour nos vies. Nous savons ce que Dieu place devant nous, les choses qu'il voudrait que nous accomplissions. Mais nous savons également que vivant dans ce monde, étant sur cette terre, il y a malheureusement des circonstances qui nous amènent parfois à nous détourner de ce que Dieu dit dans sa parole. Et à cause de cela même, nous nous tenons devant lui en disant « Seigneur, maintenant, voici mon projet. » Voici mon idée. Voilà ce qui bouillonne dans mon cœur. Seigneur, me voici. Je suis tel. Je suis une jeune fille. Je suis un jeune homme. Me voici, Seigneur. Tu vois sur cette terre. Voilà, il faut bien vivre. Il faut des choses. On ne veut pas faire ce que Dieu attend de nous. On sait ce que Dieu attend de nous. Mais parce qu'elle est contraire à nos attentes, on ne veut pas rentrer dans ce qu'il a prévu. On voudrait que lui, il rentre dans ce que nous avons prévu. Le facteur déterminant dans l'attitude de David, c'est ce qui devrait exister dans le cœur de tout enfant de Dieu. C'est ce qui devrait exister dans mon cœur, dans votre cœur. C'est ce qui devrait faire la différence entre nous et ceux du dehors. Parce qu'il est une chose de connaître ce que Dieu veut et attend de nous. Il est une autre chose de l'accepter. Surtout lorsque ce que Dieu dit est contraire à ce qu'on attend de lui. Vous savez, dans sa bonne disposition, David va accepter le choix de Dieu. Parce que ce choix était bon, agréable et parfait. Dieu peut-il se tromper? Mais la question que j'aimerais que l'on se pose et que l'on réfléchisse un peu, croyez-vous que c'était facile pour David d'accepter ce que Dieu lui a dit? Je vous pose la question. Oui, non? Croyez-vous que c'était facile pour lui d'accepter en tant que roi cette réponse négative? Croyez-vous? Mais répondez-moi quand même. Non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pardon? Il le faisait avec son cœur, oui? Sa volonté était contraire à celle de Dieu. D'autres réponses? Pardon? Il en avait envie, d'accord? Voilà, il avait un bon projet. Eh oui, il avait un bon projet. Donc, croyez-vous que c'était facile pour David d'accepter? Vous avez dit non, n'est-ce pas? Pour moi, c'est oui et non. Pour moi, c'est oui et non. Non, parce que humainement, comme vous l'avez dit, humainement, nous avons du mal. Parce que quand Dieu va dire non à David, il lui a dit, c'est ton fils. Souvenez-vous, c'est ton fils qui me construira une maison. Vous savez, humainement, on n'accepte pas que quelqu'un d'autre tire profit de notre projet à nous. Que vous l'acceptez ou pas, je sais, voilà, on est humain. Humainement, nous avons du mal à accepter que quelqu'un d'autre jouisse de notre projet. On a du mal que quelqu'un d'autre profite de notre travail et obtienne le mérite. Ah là, humainement, personne ne peut me dire le contraire. Vous ne pouvez pas me dire le compte parce qu'on est humain, on est tous pareils. Seigneur, tu vois que c'était mon projet à moi, c'était mon idée à moi. Mais oui, mais si Dieu veut que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, qui es-tu pour contester? Voyez-vous, il y a tellement de frustration dans nos églises parce que certains viennent dire, pasteur, pourtant, c'est ce que je faisais depuis toujours. Mais oui, tu le faisais depuis toujours. Mais si Dieu voudrait que quelqu'un d'autre le fasse aussi, qui es-tu pour contester? Nous n'avons pas une chaise gardée. C'est pas le service de Dieu. C'est pas notre service. C'est pas à nous. Ça nous appartient pas. Je suis là aujourd'hui. Demain, il y aura quelqu'un d'autre. Demain, il y aura quelqu'un d'autre comme pasteur de Gap. Et il faut que je l'accepte. Demain, il y aura quelqu'un d'autre qui joue à la guitare. Il faut que peut-être Henri l'accepte. C'est comme cela. Demain, il y aura quelqu'un d'autre à la sono. Il faut que Patrick l'accepte. C'est comme cela. Ce n'est pas à nous. Je bénis Dieu pour tous ceux et celles qui s'investissent. Je bénis Dieu pour la bonne disposition des cœurs. Mais si Dieu voudrait que quelqu'un d'autre aussi serve à notre place, allons-nous l'accepter? Allons-nous l'accepter? Et oui, oui, parce qu'il ne regardait pas à ses propres intérêts, mais il cherchait la gloire de Dieu. Et ça, c'est parce qu'il avait un état de cœur bien disposé. Un état de cœur disposé. Et c'est ce que Dieu même a vu en David. Lorsque, souvenons-nous, lorsque voilà, Dieu est allé le chercher derrière le troupeau, il est dit dans 1 Samuel au chapitre 13, verset 14, « J'ai vu un homme selon mon cœur, dira Dieu. » C'est beau ça, hein? Quel témoignage de Dieu pour David. Ce jeune homme qui n'avait aucune expérience de la royauté. Mais Dieu voyait son cœur. Dieu lisait au-dedans de son cœur. Et vous savez, lorsque Paul prêche à Antioche, il évoque l'alliance que Dieu va faire à Abraham, mais aussi à David. Et Paul va dire ceci en ce qui concerne David. Dans Actes au chapitre 13, verset 22, il dira, voilà, Dieu s'est choisi un homme selon son cœur qui accomplira toutes mes volontés. La question, une autre question. Comment Dieu a-t-il pu désigner David comme un homme selon son cœur et qui accomplirait toutes ses volontés alors qu'il savait que David accomplirait de nombreux péchés? Comment est-ce possible pour Dieu de dire « J'ai choisi un homme selon mon cœur qui accomplirait toutes mes volontés » alors qu'il savait que David allait commettre de nombreux péchés? Vous savez, dans sa vie, David n'a pas toujours été agréable à Dieu, hein? David a commis un meurtre pour déguiser son adultère. Dans le dénombrement, David a désobéi. Il est allé faire le dénombrement du peuple alors qu'il ne devait pas le faire. Et à cause de cela même, Dieu a sévi sur le peuple. Donc, on se rend compte que David n'était pas parfait. Mais comment se fait-il que Dieu dise « J'ai choisi un homme selon mon cœur. » Comment se fait-il? Parce qu'en dépit de ses travers, en dépit de ses défaillances, en dépit de ses fautes, cet homme savait s'humilier. Cet homme savait reconnaître ses erreurs, ses fautes, ses péchés. Il savait se repentir devant Dieu. Lorsque Nathan, après son adultère avec Bathsheba, lorsque Nathan va aller confronter David, il va dire à David, écoute, il y avait cet homme-là, qui avait toutes sortes de biens. Quelqu'un est venu chez lui et au lieu de tuer le veau qui est dans sa maison, il est allé prendre l'unique veau que son voisin avait. Et David, il va être animé d'une colère. Et Nathan va dire, cet homme-là, c'est toi. C'est toi. C'est toi, David. C'est toi qui as commis cet acte odieux aux yeux de Dieu. David aurait pu, parce qu'il était homme et parce qu'il était roi, il aurait pu se dire, ne suis-je pas le roi, je peux faire ce que je veux. Je peux avoir toutes les femmes à ma disposition, je suis roi. Mais regardez la réponse de David. Dans 2 Samuel au chapitre 12, verset 13, alors que le prophète Nathan le confronte, qu'est-ce qu'il va dire David ? J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché. Il reconnaît. Il reconnaît son péché. Frères et sœurs, acceptons-nous quand Dieu met le doigt sur notre péché, quand Dieu dévoile notre cœur devant tous, acceptons-nous de nous humilier et de reconnaître notre tort. David savait, il savait s'humilier, il savait reconnaître son tort. La preuve en est que dans au psaume 32, il le dira lui-même. Quand nous lisons le psaume 32 et le psaume 51, David montre à quel point il était important pour lui. Il commence au psaume 32 en disant ceci, « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Pourquoi ? Parce qu'il avait vécu. Il était maintenant en paix, David. Frères et sœurs, le seul moyen pour nous d'être en paix, c'est de confesser notre péché devant Dieu. Le seul moyen pour nous d'être dans la paix de Dieu, c'est de reconnaître nos torts devant lui. Malheureusement, parfois, nous essayons de les dissimuler aux yeux des hommes, mais nous pouvons tout cacher aux yeux des hommes, mais Dieu lit dans notre cœur. Dieu lit dans notre cœur. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Regardez ce qu'il va dire au verset 3. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Veux-tu essayer de camoufler ton péché ? Voilà ce qui t'attend. Veux-tu essayer de faire croire aux hommes que, alors que, tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. C'est dangereux de croire que le péché n'est pas grave. C'est grave de croire que le péché n'est pas grave. David le montre, tant que je me taisais, voilà ce que le péché faisait à moi. Mais je bénis Dieu pour cette âme que Dieu connaissait. Dieu lisait au-dedans de son cœur. Parce que vous et moi, frères et sœurs, nous ne sommes pas parfaits loin de là. Mais Dieu lit dans notre cœur et il sait réellement ce qui se passe. Lorsque nous sommes devant une situation où nous avons attristé le cœur de Dieu, allons-nous nous humilier? Allons-nous continuer à faire comme si de rien n'était? Ou allons-nous simplement dire, Seigneur, j'ai péché contre toi? Au verset 5, il dit ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Il montre que lorsqu'il gardait le silence, il a gardé le silence devant son péché, il a gardé ça pendant un temps, mais ça ne pouvait plus continuer. Quand l'Esprit de Dieu va le convaincre, Il ne va pas passer outre ce que Dieu va lui dire, mais il va accepter de fléchir le genou devant Dieu. Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne le péché? Quelle attitude attend-il de nous? C'est l'attitude de David. Frères et sœurs, si nous voulons avoir la tête haute devant Dieu, voilà l'attitude qui convient. Voilà le comportement auquel le Seigneur attend de nous. Reconnaître et avouer notre péché, demander pardon et s'en détourner. Vous savez, ne peut avoir une telle attitude que celui qui aime Dieu et qui marche dans la crainte de son nom. Ne peut avoir une telle attitude que celui qui aime son Dieu et qui crée son Dieu. Avons-nous de la crainte de Dieu dans notre cœur? Si j'ai de la crainte de Dieu dans mon cœur, quel que soit ce que Dieu va dire de moi, je l'accepterai. Je l'accepte parce que je l'aime. Je l'accepte parce que je reconnais son autorité sur ma vie. Je l'accepte parce que je reconnais qu'il est celui qui a livré son Fils à la croix. Il est mort et ressuscité Jésus pour le pardon de nos péchés. J'accepte parce que je veux lui plaire. Je veux simplement lui plaire. Vous savez, je termine avec les conséquences de l'attitude de David. Connaissant donc la volonté de Dieu, il avait ce projet de construire la maison pour Dieu, une maison pour Dieu. Dieu va lui dire, c'est pas lui, c'est pas toi. Pourquoi? Parce que Dieu voyait tout le sang que David avait versé. Dieu avait vu tout ce que David avait fait. Ce n'est pas que Dieu le rejetait. Non, Dieu ne rejetait pas David. C'est pour cela qu'il est important que le chrétien sache ceci. Ce n'est pas parce que nous recevons une réponse négative de la part de Dieu que Dieu nous a rejetés. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi qui va toujours nous faire croire que, voilà, si Dieu ne t'a pas répondu, si Dieu t'a donné une réponse négative, c'est parce que Dieu ne t'aime plus. C'est parce que Dieu... C'est faux. C'est faux. Une réponse négative n'est pas un synonyme de rejet, mais c'est parce que Dieu nous aime et il veut nous préserver d'un certain nombre de choses. Connaissant donc la volonté de Dieu pour David, Dieu va lui dire, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, mais c'est ton fils. Aïe, aïe, aïe. David va adopter une attitude louable. Dans 1 Chronique au chapitre 22, regardez ce que David va faire. Au chapitre 22, du verset 2 au verset 5, David va rassembler le peuple. Il va rassembler Israël. Pourquoi? Parce qu'il veut tout mettre en place pour préparer les éléments nécessaires pour que son fils entre pleinement dans le projet. Ce n'était même plus son projet à lui, mais dans le projet que Dieu veut, puisque Dieu dira à David, c'est moi-même qui vais te construire une maison. Dieu voulait que David se laisse conduire pour qu'il puisse réellement voir la main de Dieu sur sa vie. Alors David, du verset 2 au verset 5, David se dispose à préparer le matériel. Quelle humilité! Quelqu'un d'autre qui va bénéficier du mérite. Quelqu'un d'autre qui va jouir de son idée à lui. Oui, c'est possible parce que David ne regardait pas ses propres intérêts. Il voulait simplement la gloire de Dieu. Du verset 6 au verset 10, on voit David qui accepte la situation. Ah! Dans ta situation, veux-tu accepter la volonté de Dieu pour ta vie, même si elle est contraire à ce que tu attends, David, voilà, il accepte la volonté de Dieu pour ça, puisqu'il dira, il appela son fils Salomon et lui ordonna de construire une maison pour l'Éternel. Il appelle son fils. Il dit à Salomon, j'avais l'intention de construire une maison pour l'Éternel. J'avais l'intention. Il utilise le passé. J'avais l'intention. Mais la parole de Dieu, de l'Éternel, m'a été adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as mené de grandes guerres. Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu as versé du sang devant moi sur la terre. Tu auras un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon, voilà son nom. Et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant toute sa vie. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Il se dispose à préparer le matériel. Il accepte la situation. Et en acceptant, il ne pouvait pas accepter tant qu'il n'avait pas approuvé le choix de Dieu. Et du verset 13, 11 au verset 13, c'est ce que David va faire. Il va approuver le projet de Dieu, qui était son projet à lui. Il approuve maintenant le projet de Dieu qui va être accompli par quelqu'un d'autre. Verset 11, « Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu connaisses le succès et construises la maison de l'Éternel, ton Dieu, conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. » Et du verset 14 au verset 16, il contribue à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, simplement ce que je souhaite que l'on retienne, c'est ceci. Dieu lit au-dedans de notre cœur. Et parce qu'il nous aime, il veut nous préserver d'un certain nombre de choses. On peut avoir tant de projets pour Dieu. On peut avoir des idées, de bonnes idées, de bonnes intentions pour Dieu. Mais aussi faudrait-il que nous nous soumettions à ce que Dieu veut et non pas nous entêter simplement à aller à l'accomplissement, à l'aboutissement de nos projets à nous. C'est ce qui cause beaucoup de frustration, beaucoup de frustration. Parce que humainement, nous avons du mal avec le non. N-O-N. On a du mal avec ça. Mes filles, quand je leur dis non, elles disent tout le temps pourquoi. On le fait aussi avec Dieu. Quand je leur dis non, elles disent pourquoi papa? Mais c'est non. Mais pourquoi? C'est non. On a du mal avec le non. Et devant Dieu, c'est ce que nous faisons. Alors que nous ne réalisons pas que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nos vies et pour lui. Et ce n'est pas parce qu'on dit non à quelqu'un qu'on ne veut pas du bien à la personne. Parce qu'on regarde, Dieu regardait non pas uniquement à David, mais il regardait à l'ensemble du peuple d'Israël. Quand on dit non à quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire du mal. Mais on voit plus loin. On voit l'Église. On voit le bien-être des frères et sœurs. Et parfois, le non est synonyme de rejet et beaucoup sont frustrés. Beaucoup se butent à ce non-là. Sans se poser devant Dieu et dire « Seigneur, je me soumets à ta volonté. » savez, l'apôtre Paul, je termine avec ceci, il a accepté la volonté de Dieu pour sa vie, malgré les souffrances qui l'attendaient. Dans Actes au chapitre 21, le prophète Agabus va donner une parole de connaissance. Il va prendre la ceinture de Paul et il va se saigner les reins. Et il va donner une parole qui concerne l'apôtre Paul. En disant, celui à qui appartient cette ceinture va être lié par les hommes. Ah, ça aurait été moi, je pars en cours. Hein. Eh bien oui, je pense qu'on n'aime pas la souffrance. Mais celui, l'apôtre Paul, c'était sans compter que, voilà, il avait tout compris. Alors qu'il persécutait l'Église, il a accepté, lui, la volonté de Dieu pour sa vie. Parce qu'un jour, Dieu lui-même va se révéler à lui. Il va le confronter en disant, « Pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? » Quand le Seigneur s'est révélé à Paul, sa vie va être transformée. Il ne regardait plus à lui-même. Il ne pensait plus à lui-même. Il regardait simplement les intérêts de son Dieu. Et j'aimerais lire ce texte parce qu'il est important pour nos vies de savoir ce que Paul a fait. Je vais terminer juste avec ce verset. À partir du verset 10 du chapitre 21, il est écrit ceci. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Nous avons supplié Paul. Il a répondu, ah, voilà ce qu'il va répondre l'apôtre Paul. Que faites-vous à pleurer et à me briser le cœur? Que faites-vous à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous avons insisté et avons dit que la volonté de Dieu soit faite. L'apôtre Paul, en dépit des souffrances qui l'attendaient, a accepté ce que Dieu voulait pour lui. Et nous, acceptons-nous que Dieu accomplisse sa volonté, même si nous savons ce qui nous attend. Même si nous savons ce qui nous attend. Même si nous savons qu'il y a la souffrance qui nous attend. Allons-nous tout de même dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que chacun réponde. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Parce que nous vivons vraiment des temps où ces choses-là pourront nous arriver. Parce que nous avons livré notre vie au Seigneur. Ne croyons pas que la vie va être rose jusqu'à la fin. Je ne dis pas ça pour décourager quelqu'un, mais nous sommes dans les temps de la fin. Et comme la parole de Dieu nous le dit, il y aura des temps difficiles. L'Église va être soumise à des difficultés, à des épreuves de toutes sortes, physiquement, spirituellement. nous allons être confrontés à toutes sortes d'épreuves. Nous allons peut-être être livrés. On va nous livrer. Jésus le dira lui-même. Vous allez être livrés. Et si ça m'arrivait? Si ça nous arrivait, allons-nous accepter? Qu'on nous amène liés au nom de Jésus? Ou allons-nous répondre par la force? C'est ce qui se passe aujourd'hui au dehors. On proteste. On proteste. Mais le chrétien doit-il protester? Ou devrait-il simplement se soumettre à la volonté de Dieu? Le seul moment où il doit protester, c'est quand on va lui dire au dehors de faire des choses qui soient contraires à ce que Dieu veut. Mais si telle est la volonté de Dieu que l'on souffre comme ceux du dehors, allons-nous l'accepter? Allons-nous accepter parfois que la maladie même fasse effet au milieu de nous? On a du mal aussi. C'est sûr, nous prions pour que Dieu guérisse. Et je crois en la guérison divine. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que Dieu, par sa parole, est capable instantanément de guérir quelqu'un. J'ai cette conviction, j'ai cette assurance. Mais j'ai aussi la conviction qu'il y a dans la parole de Dieu des situations où Dieu a laissé faire. Non pas parce qu'il n'est pas puissant pour guérir, non pas parce qu'il n'est pas puissant pour intervenir, mais c'est parce que dans toutes ces choses, Dieu veut se glorifier dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors, frères et sœurs, il est bon que nous sachions vraiment laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. Il est bon que nous sachions réellement en dire, Seigneur, voilà, nous t'avons donné notre cœur, nous t'avons livré notre vie, et ce qu'il y a maintenant aujourd'hui, ce n'est plus ce que je veux, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Ce qui est difficile pour l'Église aujourd'hui, ce n'est pas tant de connaître la volonté de Dieu. Ce qui est difficile pour vous, pour moi, pour l'Église de Jésus-Christ, c'est accepter la volonté de Dieu en sachant que ce que Dieu nous dit est contraire à ce qu'on attend de lui. Elle est là la difficulté. Mais il faut vraiment, comme Paul va le dire, que l'Esprit de Dieu transforme notre intellect, que notre esprit soit soumis à l'Esprit de Dieu pour savoir réellement que ce que Dieu veut pour nous est ce qui est bon, agréable et parfait. À lui soit toute la gloire. Amen. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, nous réalisons parfois qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans ta parole. Mais Seigneur, parce que c'est ta parole, nous voulons l'accepter. Parce que c'est ce que tu dis, Seigneur, nous voulons la vivre, nous voulons la mettre en pratique. Nous réalisons nos limites, nos imperfections. Nous réalisons, Seigneur, notre humanité. Seigneur, mais nous réclamons ta grâce. Je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour chacun d'entre nous présents. Seigneur, parce que personne ne peut dire qu'il est suffisant pour ces choses-là. Seigneur, nous pourrons être confrontés à des difficultés et nous le serons. Mais nous voulons simplement, Éternel, que tu nous viennes en aide. Jusqu'au bout, Seigneur, comme ce chant le dit, nous voulons te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Seigneur, je te prie dans ta grâce d'aider quelqu'un qui a du mal, Seigneur mon Dieu, à accepter ta parole. Seigneur, je te prie dans ta grâce que ton esprit lui vienne en aide. Que les paroles de l'ennemi soient mises de côté, Seigneur, et que nous puissions vraiment jouir de ta parole qui est la vérité. Pose ta main sur chacun, raccompagne-nous Seigneur, et que ton nom soit glorifié tout au long de cette journée. À toi seul toute la gloire. Amen.